L'info locale sur Radio en duplex sur Thierry FM avec Élodie Largenton. Bonjour.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Une refonte de la fiscalité communale est en cours, mais on n'en saura pas plus avant quelques mois. C'est le vice-président Tevar Ofrich qui l'a annoncé hier à l'ouverture du congrès des communes. Il y a eu 20% de cambriolages en moins cette année par rapport à l'an dernier. Un chiffre impressionnant annoncé par le haut-commissaire René Bidal. Dans ce journal, on parlera aussi de la candidature des Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO, une candidature au point mort. Et puis c'est le concert événement de la rentrée. Julien Clerc sera à Toata le 8 septembre prochain pour fêter ses 50 ans de carrière. On l'entendra à la fin de ce journal.
Le 28e congrès des communes s'est ouvert hier à Mahina. Le thème de cette année est assez vague. Je cite « Bilan des Tavanas à mi-mandat ». Mais ce qu'on retient de cette première journée, c'est une annonce d'annonce.
Le vice-président du pays, Tevar Ofrich, promet que le président Édouard Fritsch fera des annonces sur la fiscalité communale avant la fin de l'année. Pour le moment, il n'en dit pas beaucoup plus.
Avant la fin de l'année, je crois que le président souhaitera lui-même effectivement en parler. Ce que nous souhaitons, puisque c'est un sujet qui a évoqué depuis longtemps, effectivement que concrètement des premières choses puissent se faire dès 2018. En tout cas, c'est le vœu du président. Maintenant, je lui laisserai faire ses annonces.
Il y a quand même eu du concret hier. Tevar Ofrich annonce deux projets de loi du pays. Le premier pour modifier l'article 55 du statut qui traite des conventions entre le pays et les communes concernant la réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services publics. Le second pour la mise en place d'un fonds de secours en cas de catastrophe naturelle afin de permettre une coordination plus efficace du pays avec les communes.
C'est pour améliorer nos modalités d'intervention en cas de catastrophe naturelle parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de dispositif juridique, ce qui fait qu'on a pu être démunis à un moment quand les communes sur le domaine communal devaient faire face aux réparations d'urgence. Il y a certes l'État qui intervient, mais ce texte vise à mieux nous organiser avec les communes pour que le pays aussi puisse intervenir à leur côté davantage et de manière encore plus efficace.
Ces projets de loi seront soumis à l'avis des représentants des communes avant la fin de l'année. Du côté des communes, justement, le président du SPC, Cyril Tétouanoui, confirme que les tensions de l'an dernier sont bien dépassées. Et c'est nécessaire pour le haut-commissaire René Bidal qui met en garde contre tout discours qui pourrait affaiblir l'exécutif du pays. Une situation en apparence incertaine ou instable pourrait, selon lui, fragiliser et décourager les investissements. On l'écoute.
Le président du SPC s'est parfaitement exprimé sur le sujet. Moi, je crois surtout qu'à l'évidence, dans un contexte où il ne faut pas douter, parce que si on doute, on fait douter, il faut à tout prix que la Polynésie française soit unie.
Le haut-commissaire au micro de VEI tout paye.
René Bidal qui a aussi donné quelques chiffres récents de la sécurité publique lors de son discours d'ouverture du congrès des communes et le bilan est plutôt positif.
Les cambriolages sont en forte baisse, moins 20% depuis le début de l'année par rapport à 2016. Les atteintes aux personnes diminuent également de 2%. Le haut-commissaire rappelle malgré tout qu'il faut prendre très au sérieux les faits de violence qui sont en progression régulière depuis 10 ans et qui, rapportés à 1000 habitants, situent la Polynésie dans le peloton de tête nationale. René Bidal a également livré son analyse sur les trafics de drogue qui touchent le Fénois, notamment le trafic d'ICE, une drogue dont la consommation est en augmentation. Mais pour le haut-commissaire, il serait intellectuellement malhonnête de vouloir alimenter le feuilleton d'un psychodrame. La Polynésie française n'est pas une terre de grande criminalité. Fin de citation.
Vous avez sûrement vu la photo sur notre site internet www.radio1.pf ou sur les réseaux sociaux. Un camion transportant une grue s'est encastré sous le viaduc de la Punaro hier.
Il n'y a aucune victime, mais 7 boulons de la structure du viaduc ont cédé sous le choc. Selon la police municipale, le transporteur a mal évalué la hauteur de sa cargaison. L'accident a eu lieu à la mi-journée. Les pompiers de Punaoya ont été dépêchés sur place pour nettoyer la route. Le camion et son chargement ont été dégagés en l'espace d'une demi-heure sans provoquer de bouchons. C'est maintenant au service de l'équipement d'analyser les conséquences du choc. En attendant le résultat de ces analyses, par mesure de précaution, seuls les véhicules de moins de 3,5 tonnes pourront emprunter le pont à partir d'aujourd'hui.
La taxe sur les opérateurs de télécommunications et l'impôt sur les stations radioélectriques seront bientôt effectifs.
Le Conseil d'État vient de retoquer le recours de Vodafone contre cette taxe et cet impôt voté en décembre dernier. La nouvelle réglementation va donc s'appliquer dès promulgation de la loi du pays dans les jours à venir. Rappelons que cette fiscalité a été mise en place par le pays après l'annulation par la justice des droits d'accès à l'exploitation des réseaux et services de télécommunications, des droits payés par les opérateurs ces dernières années. Viti avait d'abord obtenu la décharge de ses droits d'accès, puis Vodafone et enfin Vini pour des sommes avoisinant plusieurs milliards de francs.
Il a fallu plus de 20 ans de travail pour que le site de Taputapuatea fasse son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça semble long, mais ce n'est rien comparé au dossier marquisien lancé il y a plus de 30 ans et qui semble patiner.
Richard Touhiyava, représentant UPLD et président de l'association Napapa Evo, qui a contribué à l'inscription de Taputapuatea sur la liste du patrimoine mondial. Il a aussi travaillé pendant un temps sur le dossier marquisien avant de s'en éloigner. Et il fait remarquer que les deux candidatures sont très différentes.
C'est un dossier qui est différent, parce que le dossier marquisien est un dossier qui est plus ancien que celui de Taputapuatea. C'est un dossier qui a une aura qui est différente, et une vibration aussi qui est différente. Par contre, il faut véritablement qu'il y ait une cohésion politique, entre les marquises du Nord et du Sud, par exemple, et aussi sur, on va dire, le format du dossier, parce que classer une cinquantaine de sites pour un seul pays, avec une aire géographique aussi vaste que les marquises, c'est très très compliqué. Et je pense qu'il faut que donc les porteurs du dossier marquisien fassent preuve d'encore plus d'intelligence et de peut-être se concentrer sur un site ou deux à classer d'abord comme un premier acquis, comme ici, et ensuite de l'étendre à l'ensemble de l'archipel. C'est une suggestion.
À l'UNESCO, les marquises veulent être reconnues à la fois comme un bien culturel et comme un bien naturel. L'archipel se présente comme un témoignage exceptionnel d'une tradition culturelle, d'une civilisation vivante qui a failli disparaître. Les marquises représentent aussi des phénomènes naturels remarquables et des aires d'une beauté naturelle et d'une importance esthétique exceptionnelle. Voilà certains des points qui seront défendus à l'UNESCO. Mais avant ça, comme le souligne Richard Touhiyava, mais aussi le ministre de la Culture, Helemoana Mamatoaia-Hutapu, ce qui est compliqué, c'est que toutes les îles de l'archipel doivent soutenir le projet d'une même voix. Et pour le moment, les différents acteurs n'ont pas réussi à s'entendre sur la liste des sites à inclure au dossier.
C'est un dossier très compliqué parce que c'est un bien mixte à la fois culturel et naturel. On a vu sur Cracovie ce que ça peut représenter comme type de dossier. Il n'y a eu qu'un seul dossier d'ailleurs qui a été présenté cette année. Parfois il n'y en a pas du tout, d'où justement notre crainte. Mais on nous demande de présenter un pré-projet de rapport, un rapport préalable au niveau du Bureau des biens français en avril 2018. Donc il va falloir que l'on cravache un peu et que l'on se mette d'accord sur tout sur les sites qui vont être proposés dans le dossier, à la fois les sites culturels et les biens naturels, les sites naturels. Donc toute la complexité aujourd'hui de ce dossier réside dans le choix des sites pour pouvoir rédiger ce pré-rapport.
Le ministre de la Culture, les îles des Marquises ont donc moins d'un an pour se mettre d'accord et faire avancer leur dossier.
Événement, le concert exceptionnel de Julien Clerc à Toata, c'est dans un mois, le 8 septembre prochain.
Et avant sa venue au Fénois, le chanteur et compositeur a accordé une interview à Radio 1 pour évoquer son rêve de venir en Polynésie. Ce sera la première fois qu'il va se produire sur la scène de Toata, une première qui l'enchante, on l'écoute.
D'abord, je suis très très content de venir, parce que je suis jamais venu, et donc je suis très heureux de pouvoir venir. Écoutez, j'arrive avec les les yeux grands ouverts pour profiter de toutes les beautés qu'on m'annonce, voilà. Donc je suis très heureux de venir, et surtout de pouvoir chanter aussi. J'attends beaucoup de ce voyage, je vous dirais, parce que évidemment, quand on habite si loin, la Polynésie, c'est du rêve. Donc je suis très heureux d'aller à la rencontre de ce rêve. Et non, j'espère que je vais pouvoir visiter quelques endroits comme ça, m'éloigner des agglomérations pour aller dans... J'ai la chance de rester, je ne sais plus combien, 4 ou 5 jours, je crois, là-bas. Donc je suis enchanté de venir.
La Polynésie fait partie des premières dates de la tournée de Julien Clerc, une tournée pour célébrer 50 ans de carrière. Le concert se fera uniquement avec deux pianos, une façon d'être encore plus proche du public pour Julien Clerc, qui va interpréter tous ses grands tubes de Femme, je vous aime à Mélissa, en passant par Fais-moi une place, et le public aura son mot à dire.
Ce que je fais et que je vais inaugurer là, c'est que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup de chansons différentes et je propose au public d'en choisir une partie chaque soir. Donc je propose une liste sur lesquelles les gens choisissent. Comme ça, moi, ça me permet de pas faire toujours le même concert. Et puis, il y a des surprises, quoi, voilà. Et je me suis dit, si vous voulez, en gros, 50 ans de chansons, 50 chansons, quoi. Voilà. Et donc, comme j'ai la chance d'avoir quand même pas mal de chansons de répertoire qui sont connues, je suis obligé de faire des choix. Donc, je me suis dit, je vais faire choisir le public, en fait.
Déjà 50 ans de chansons et Julien Clerc ne compte pas s'arrêter là. Le chanteur va présenter son 30e album en octobre prochain. Un album réalisé par un autre artiste bien connu, Calogero. Julien Clerc s'attache d'ailleurs à travailler sans cesse avec de nouveaux auteurs pour se renouveler. Et c'est peut-être ça aussi son secret de longévité.
Je pense d'abord que le secret d'une longévité, c'est quand on est passionné par ce qu'on fait. Moi, j'ai eu une chance dans la vie, c'est que j'ai choisi un métier qui me passionnait, vous voyez. Et j'ai jamais eu vraiment envie de faire autre chose. Ce qui me plaît, c'est d'inventer des musiques, quoi, voilà. Mais c'est vrai que le fait de n'être que musicien et de devoir collaborer avec des gens qui écrivent des textes, je pense que oui, c'est un gage aussi de longévité, ça. Parce que moi, ça m'aide à me renouveler musicalement, je pense. Et c'est surtout, je crois, parce que ça me plaît toujours autant de faire ça. Je crois que c'est la raison première. Et finalement, je crois que j'étais tout à fait fait pour ça.
Julien Clerc au micro de Valentine Bluet. Le concert, c'est donc le 8 septembre prochain à Toata. Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio Enfareauté et sur la billetterie en ligne ticket-pacifique.pf.